IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val-d'Oise, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Vous êtes chef d'entreprise et vous vous demandez à quoi pourrait servir de devenir adhérent de la CPME. Eh bien, cette émission est faite pour vous. Parce qu'elle regroupe des entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille, parce qu'elle veille à défendre leurs intérêts économiques, sociaux et environnementaux, ce matin, mardi 19 novembre 2024, en direct et jusqu'à 11h, l'économie en direct sur IDFM Radio a le plaisir de présenter une nouvelle spéciale CPME du Val d'Oise. L'opportunité pour nous d'accueillir de nouveaux adhérents, de découvrir leur parcours professionnel, mais aussi et surtout de connaître le pourquoi de leur adhésion à cette incontournable confédération des petites et moyennes entreprises dans le Val d'Oise. Et pour en savoir plus, je suis ravie de recevoir autour de ce plateau Laurent Pillard, président de la CPME, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val d'Oise depuis 12 ans, chef d'entreprise de l'ENA Conseil et de l'agence 46 spécialisée dans l'imprimerie numérique. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Toujours très heureuse de vous accueillir chez IDFM Radio et de démontrer avec vous l'impact de la CPME 95 sur les entrepreneurs locaux qui se sont ralliés à votre confédération.
Ben merci. Alors vous avez dit petites et moyennes, on peut dire aujourd'hui grandes entreprises également.
Ah vous avez, ça y est,
c'est... Non mais il y a des grandes entreprises présentes aujourd'hui.
Oui non parce que je savais que vous vouliez modifier le logo, oui absolument.
Ah non, je ne peux pas, c'est national.
À vos côtés Julien Ducoux, bonjour Julien.
Bonjour.
Merci de votre présence dans nos studios. Vice-président du hub FedEx Charles de Gaulle, implanté donc à Roissy, Pays de France. Un opérateur mondial, mais également local du fait de cette implantation dans le Val d'Oise. Vous nous expliquerez comment un géant tel que FedEx contribue au développement économique du territoire, mais aussi, j'ai pu voir, à l'éducation et la formation.
Avec grand plaisir.
À vos côtés, Jean-Pierre Duquesne. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Président de la Fédération des entreprises de propreté Île-de-France, voilà. Chef d'entreprise de propreté Netindus, ouais. Ravi de vous accueillir chez IDFM Radio. Les entreprises de propreté, je note d'ailleurs qu'on dit maintenant entreprise de propreté et plus entreprise de nettoyage.
Ouais, ça fait un certain nombre d'années.
C'est vrai.
Bien sûr. Bon, bah, alors, je suis ravi d'être parmi vous.
Je suis pas au goût du jour. Alors, vous allez m'expliquer. Un secteur à découvrir que celui de l'hygiène et la propreté, et c'est ce que nous allons faire avec vous dans quelques instants.
Oui.
Et à vos côtés, Vincent Mazuriel, bonjour, directeur Enertrag SE. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Enchanté de vous accueillir également chez IDFM Radio. Enertrag, producteur indépendant d'énergie renouvelable et expert en gestion des systèmes électroniques pilotables. Vous nous expliquerez également comment votre entreprise accompagne les acteurs du territoire dans l'amélioration de leur efficacité énergétique au bénéfice de la fameuse transition énergétique.
Avec grand plaisir.
Bienvenue et encore merci à tous les quatre d'être les invités en direct de l'économie en direct dans cette spéciale CPME 95, une émission à retrouver bien sûr en podcast sur le portail de la radio IDFM98.fr. IDFM Radio, par nous, pour nous. Alors, président Laurent Pillard, nous le répétons presque à chaque émission, mais une des caractéristiques de la CPME, c'est sa proximité avec ses adhérents. Parlez-nous des initiatives récentes et des projets à venir de votre confédération.
Des initiatives, il y en a toutes les semaines, on va dire, puisque je vous rappelle que c'est une soixantaine d'événements par an qui sont organisés par la CPME. Et notamment, là, juste après l'émission, je file pour la semaine de l'industrie, où nous sommes chez Rémi Godet, donc ça a démarré ce matin, donc sur le secteur de Roissy, donc nouvel adhérent, une grande entreprise, groupe familial. Donc je vais les retrouver, donc semaine de l'industrie, on a été labellisé par les services de la préfecture sur cet événement. Donc voilà, ça fait partie des événements de la semaine, mais la semaine prochaine, il y a encore un ou deux autres événements. Il y a une visite de l'entreprise Enertrag de Vincent Mazurel, qui est un de nos invités, qui a lieu vendredi, dans 3 jours.
D'accord.
Donc, voilà, de mémoire, voilà ce que je peux vous dire.
Très bien. Alors, on parle peut-être des... On en parle régulièrement, hein, puisqu'on se voit régulièrement. Aujourd'hui, ce qui nous fait souci, c'est la dette de la France, hein, qui va forcément avoir plusieurs impacts sur la vie des entreprises. Comment la CPME l'appréhende-t-elle?
Alors, la dette, aujourd'hui, c'est plutôt une incertitude, je dirais, pour les chefs d'entreprise.
Oui,
on est dans le brouillard, alors c'est facile de dire ça en plein mois d'automne. Mais les chefs d'entreprise, ils ont besoin de visibilité. On dit souvent qu'un chef d'entreprise, c'est un visionnaire. Alors, je veux bien qu'on soit visionnaire, mais pour ça, il nous faut de la visibilité à long terme. Pour avoir de la visibilité, il faut une stabilité aussi des marchés financiers. Et puis, je crois qu'on est les champions du concours Lépine de la réglementation et de la normalisation en France. Donc, on réglemente, on déréglemente, on met des normes, on change de normes. Et les chefs d'entreprise, quand les normes, elles changent tout le temps et les règles du jeu, elles changent tout le temps, tout devient compliqué. Faire un prix marché, on peut plus, puisque une année, vous avez le droit à ça. L'autre année d'après, les allègements, on va vous dire que là, en 2025, les allègements bas salaires vont peut-être sauter ou pas. Mm-hmm. Je sais pas, on a des spécialistes là autour de la table qui travaillent notamment avec de la main-d'œuvre, donc en grand nombre. Et pour eux, faire une offre de prix, je pense, pour l'année 2025,
oui, c'est
bon
compliqué.
Courage s'ils mm-hmm. doivent répondre à un appel d'offres aujourd'hui. Voilà, alors bien entendu, je pense qu'il y a des index, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Mais après, on sait que la loi du marché fait que c'est le client qui décide un peu s'il applique ou pas ces index de prix et de réglementation. Donc voilà, mais je pense que là, notre président de la Fédération d'entreprises de propreté sera plus à même de répondre à ce type de problématique des chefs d'entreprise. Voilà, et au-delà de ça, donc forcément, ça amène de la certitude d'une façon générale pour les chefs d'entreprise. Où je peux vous dire que la CPME, voilà, c'est 500 adhérents dans le Val d'Oise. On est la première organisation patronale de France et du Val d'Oise, mais plus de 50% des chefs d'entreprise adhérents aujourd'hui sont dans le brouillard et ne savent pas trop où on va, quoi.
C'est ça, et un contexte délicat où la CPME doit forcément se positionner comme un soutien encore plus indéfectible.
Tout à fait. Et puis en plus. Une année un peu spéciale pour la CPME nationale, puisqu'en 2025, nous avons une élection d'un nouveau président national. Donc voilà, il y a 3 candidats. Alors, comme les élections pour les députés qu'on a pu voir récemment en France, là, il y a 3 candidats qui font campagne. Donc voilà, donc le nouveau président aura une lourde tâche dès son arrivée le 21 janvier 2025.
Laurent, vous parliez des problèmes de réglementation qui changent tout le temps. Et pourtant, au printemps, vous étiez intervenu sur la simplification, justement, des démarches administratives. Mais alors, donc, c'est un petit peu, alors, ça vient se...
Non, ça, c'était la volonté des chefs d'entreprise et des organisations patronales, la simplification.
Elle n'est pas du tout appliquée.
Non, pas du tout. Et puis, clairement, on va voir... À quelle sauce on va être mangé, mais bon, il y a un projet de loi de finances qui est en cours, qui est détricoté par une grande partie côté gauche de l'Assemblée. Soyons clairs, le 49-3, il est juste au-dessus et ils vont appliquer sans doute, si c'est trop long, si c'est trop compliqué, le 49-3 sera appliqué. Et la partie simplification, je l'ai pas bien vu dans les projets de loi de finances. Alors oui, il y a des petites choses, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la réglementation et la normalisation, c'est on détricote et voilà, on dit on va leur faire plaisir, on va enlever ça. Mais on rajoute ça derrière de façon cachée. Voilà, on a parlé de l'administration fiscale, nous a parlé de la facturation électronique. Vous inquiétez pas, tout ira bien, tout va bien se passer pour les entreprises. On a accueilli le 8 novembre le directeur de la DGFiP au moment du déjeuner mensuel des adhérents. 140 chefs d'entreprise présents. Voilà, c'est le sujet qu'on n'a pas pu aborder parce que quelque chose qui devait être gratuit, en fait, on nous annonce qu'il va falloir s'inscrire pour les entreprises sur des plateformes qui sont payantes. Voilà. Donc on a rajouté, alors dans la simplification de la facturation électronique, on a rajouté un coût supplémentaire, des taxes pour les entreprises.
À non plus finir. J'ai noté au passage que vous avez parlé de 500 adhérents, ça y est, vous les avez atteints ?
Ouais, alors c'est 480 mois, c'est un par jour, donc voilà, il nous reste
formidable.
Il nous reste moins de 60 jours, ça devrait le faire.
Donc une situation économique qui n'a pas de prise sur l'augmentation de vos adhérents, ou alors c'est non. Peut-être parce qu'il y a cette
non, justement en période de crise, c'est un peu le paradoxe, vous savez, souvent quand c'est la crise, c'est le moment où les Français jouent le plus au casino et au loto. Donc alors là, est-ce que les chefs d'entreprise se disent bon là on va dans le brouillard, ça va être compliqué, il faut adhérer aux organisations patronales ou aux fédérations de branches? Je sais pas. Non, je pense que c'est plus un travail du quotidien de l'équipe de Pervine, notre délégué Pervine Wittmer, la déléguée générale de la CPME du Val-d'Oise, qui fait un énorme travail. Donc voilà, aujourd'hui elle est entourée de trois permanents, donc Anna, Marisa et David, qui font aussi un super boulot, et voilà, un travail du conseil d'administration, et c'est pas que le président, j'ai toujours dit que je ne serai jamais l'hyper-président, c'est un travail d'équipe et du bureau, mais quatre vice-présidents aussi qui travaillent chacun dans leur section. Donc voilà, et c'est une belle reconnaissance aujourd'hui d'avoir le plateau qu'on a
je
aujourd'hui.
Comprends. Ah oui.
Voilà, on dit les petites et les moyennes entreprises, souvent on est assimilé, oui, bah c'est les petites boîtes, la CPME. Je peux vous dire que même au niveau des services de l'État, aujourd'hui, ils savent que c'est aussi les grandes entreprises. On le voit ce matin, mais on le voit dans le quotidien de la CPME. Et aujourd'hui, on leur apporte quelque chose également aux grandes entreprises.
Bravo Laurent. On marque une pause avant de parler un petit peu de votre activité.
D'accord.
À tout de suite.
Selon fond de son s'envolée selon le bout de la nuit.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, c'est notre spécial CPME avec quatre invités, Laurent Pillard, Julien Ducoux, Jean-Pierre Duquesne et Vincent Mazurel. Laurent, alors, votre activité de chef d'entreprise, comment voyez-vous les mois à venir?
Pas glacial, même si on a parlé de l'automne tout à l'heure. Non, ben brumeux, comme je le disais un peu pour toutes les entreprises. Si je parle de formation, je travaille notamment avec toutes les OPCO, etc. Mais aussi des fonds de formation à destination des chefs d'entreprise. Et vous voyez, depuis la semaine dernière, mercredi 12-13, il y a un des trois fonds de formation à destination des chefs d'entreprise qui a arrêté. Il n'y a plus de sous dans la caisse. Donc voilà.
D'accord.
Donc c'est une problématique pour les chefs d'entreprise qui auraient voulu se former d'ici la fin de l'année. Et c'est une autre problématique, cette fois-ci, pour mon métier à moi. Je vais parler de mon métier, là, des organismes de formation. C'est-à-dire que vous avez des clients, ils se réveillent pas du jour au lendemain pour faire une formation. Vous les avez rencontrés, vous avez pris les besoins en formation, vous montez le dossier de formation. Là, en France, on est les rois de l'administratif. Et dans la formation, je peux vous dire que des papiers, on en remplit, même si c'est électronique, mais des documents, on en remplit beaucoup. Mm-hmm. Et là, on vous annonce, mercredi, vous recevez un mail du fonds de financement et on vous annonce... à 14h30, qu'à partir de ce soir, 18h, c'est terminé, ils acceptent plus aucune prise en charge. Alors, ça peut être pour certains quelques centaines d'euros, pour d'autres quelques milliers, et pour moi, c'est presque 100 000 euros pour la fin de l'année qu'on ne pourra pas prendre en charge. Et quand en face, on vous répond, c'est pas grave, vous attendez le mois de janvier, moi, je sais pas si le chef d'entreprise qu'on devait former d'ici la fin de l'année, il attendra ou il tiendra jusqu'à la fin de l'année, ou si au mois de janvier, il sera toujours d'accord pour la faire.
Oui, donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Donc,
Ça, c'est le quotidien, mais je dirais que voilà, c'est les problématiques que rencontrent aujourd'hui tous les chefs d'entreprise.
Mm-hmm. Oui. Donc, oui, parce que vous étiez plutôt optimiste au début de la saison, à la rentrée en septembre.
Oui, je suis toujours optimiste. Faut rester positif, dis. Des coups, on en prend. Le 28 février, je vais fêter mes 30 ans d'entrepreneuriat. J'ai eu des hauts, des bas. J'aime pas avoir de regrets. J'ai juste un regret, c'est de pas avoir écrit et d'avoir pris des notes parce que j'ai vécu des aventures extraordinaires. J'ai été tout en haut, tout en bas. Je suis passé
Le ferez quand vous serez à la retraite.
Je suis passé. Il me reste encore un peu de temps.
Ouais, c'est ça.
Je suis passé par la case départ il y a 12 ans. Donc la case départ, c'est une liquidation sur une de mes entreprises, la plus grosse, avec 300 salariés. Il faut rester positif. Donc bien entendu. Bon, l'avantage dans la formation, c'est qu'on travaille aussi à long terme. Donc l'année 2025, j'ai une grosse activité sur la partie hôtelière. Donc, dans le Val-d'Oise, il y a encore des beaux projets de développement hôtelier, notamment sur le secteur de Roissy. Je crois qu'on, même s'il n'y aura pas de T4, il y aura d'autres choses qui vont faire que Roissy va s'agrandir. Donc, la partie hôtelière va s'agrandir. Il y a encore des inaugurations d'hôtels. Et sur cette partie-là, ça, le développement continue.
Oui, vous avez fait une belle OPA sur le pays de Roissy de France depuis un an.
On a une antenne en fait avec Roissy Dev, à Alain Aubry et Pascal Doll que je remercie parce que quand je les avais rencontrés, c'était la signature d'une convention avec la dette et j'avais dit je venais d'être tout nouveau président de la CPME il y a 3 ans et demi. J'ai dit j'aimerais bien m'implanter à Roissy parce que le cœur économique du Val d'Oise c'est pas que la communauté d'agglo de Cergy et sa préfecture. Mais par contre, je lui ai dit, moi, je suis tout nouveau président et on n'a pas de sous. Donc, je continue à le dire, on n'a pas de sous. Et ils m'ont dit, on va regarder. Et finalement, ils ont on est gracieusement accueillis au sein de Roissy Dev. Donc on a une permanence avec un bureau. Et on a un de nos permanents qui va toutes les semaines.
Ils ne doivent pas le regretter, en tout cas.
Non, pas du tout. Et puis c'est un bel échange qu'on a avec Alain Aubry et ses équipes. Et à Roissy Dev, et c'est comme ça aussi qu'on a pu faire une conférence de presse, et c'est là qu'on a rencontré une partie des équipes de FedEx, où le préfet Cour, à sa demande, m'a dit, Monsieur Pillard, la CPME, qu'est-ce qu'elle pense de la réglementation sur les vols de nuit, etc. Je dis, il faudrait être fou pour dire que nous, entrepreneurs, on souhaite que ça diminue. Il faudrait être fou quand on est CPME de se dire que si FedEx s'en va, c'est 4000 emplois directs et 50 000 indirects qui disparaissent. Donc et c'est grâce à tout ça, tout ce réseau sur Roissy, on a organisé cette conférence de presse. et qu'aujourd'hui qui nous apporte une visibilité. Hier, j'ai eu la chance, bon, cette fois-ci en tant que président de CPME, d'être reçu par le directeur d'ADP. Donc voilà, et c'est vrai que sur Roissy, c'est un secteur qui est pas méconnu des Valdoisiens de Cergy. Et pourtant, c'est un beau terrain de jeu, je dirais, commercial. Cette fois-ci, on va parler de la CPME, c'est pas un BNI, je le répète toujours. Mais c'est un sacré terrain de jeu commercialement. À Roissy, il y a un paquet d'entreprises. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a FedEx, mais on a des gens comme Duchaud qui a quand même retransmis la cérémonie d'ouverture des JO, qui est adhérente de la CPME également.
Oui. Ah oui.
Donc voilà, on a plein de...
Vous devez faire des jaloux au niveau national dans vos adhérents.
Rien qu'au niveau régional, là, j'étais avec tous les présidents de CPME de l'Île-de-France. Ils m'ont dit, non, mais Laurent, tu sais, tu vas t'occuper...
T'es hors concours.
Non, mais là, l'année prochaine, on va te mettre au développement des territoires. J'ai dit, vous savez, j'ai pas envie d'aller à Paris tous les jours, j'ai pas envie d'aller en 92, 78, 91, 94... Donc, on a de la chance d'avoir des belles entreprises.
Merci, Laurent Pillard, président de la CPME, pour cette intervention et puis votre analyse toujours pleine de bon sens. Peut-être un message à toutes les entreprises qui ne sont pas encore adhérentes de la CPME.
Venez, nombreuses déjà. Et juste un message sur une actualité, le 6 décembre, mais c'est réservé aux adhérents. On a notre soirée annuelle qui s'appelle Soirée Élégance. Donc voilà, et j'aime à dire que la CPME, c'est une grande famille d'entrepreneurs, mais cette soirée est un peu particulière. C'est une soirée qui me tenait à cœur, j'ai inventé il y a 2 ans. C'est l'idée, on est tous chefs d'entreprise ou des fonctions de direction dans des entreprises qui nous obligent au quotidien à faire 35 heures du lundi au mercredi midi et recommencer notre deuxième 35 heures de mercredi après-midi au vendredi soir. Et forcément, les conjoints, conjointes, en prennent un coup et ça joue forcément. Et cette soirée-là, en fait, chaque chef d'entreprise adhérent de la CPME peut venir accompagné de son conjoint ou son conjointe ou personne de son choix. Voilà. Et c'est un moment d'échange. Et souvent, quand je lance la soirée, je dis, mesdames, messieurs les conjoints, rassurez-vous, pendant au moins une minute, vos voisins ne vont pas parler de chiffre d'affaires, de marge et de problématiques de banque. Voilà.
Et le lieu est tenu secret encore?
Non, pas du tout. Ça se fait au PIC, donc Paris International Golf Club. Donc c'est un super établissement.
Oui, c'est un bel endroit.
Rien que quand on passe le portail, déjà, on a compris l'univers dans lequel on allait rentrer. Et donc voilà, c'est une très très belle soirée où il y a un photographe, mais je rassure tout le monde parce qu'on a quelques invités lors de cette soirée. C'est des photos restent en interne, il n'y a aucune diffusion externe. Donc voilà, du fait de protection déjà des vies privées des uns et des autres, quand vous venez accompagner, c'est important.
Merci infiniment, Laurent. Merci. Ne partez pas, on marque une nouvelle pause avant de donner la parole à mes autres invités. À tout de suite.
I wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay. Bear my soul. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by and all I can do is watch and cry. Life was a party to be thrown, but that was a million years ago.
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et c'est l'économie en direct. Ce matin, j'accueille notre partenaire, la CPME 95, avec toujours à mes côtés Laurent Pillard, président de la CPME 95, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val-d'Oise, chef d'entreprise. Julien Ducoux, vice-président opération Hub FedEx Charles de Gaulle, implanté donc à Roissy, Pays de France. Jean-Pierre Duquesne, président de la Fédération des entreprises de propreté Île-de-France, chef d'entreprise de propreté Netindus. Et Vincent Mazuréel, directeur de Enertrag, producteur indépendant d'énergie renouvelable et expert en gestion des systèmes électriques pilotables. Julien Ducoux, je m'adresse à vous. Donc, FedEx, tout le monde connaît FedEx. Je rappelle que c'est une société experte dans la livraison express de colis et de documents. Peut-être quelques mots sur la genèse de cette entreprise.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci pour l'invitation. Effectivement, FedEx est une entreprise de transport express international. Alors, on connaît, beaucoup d'entre vous connaissent FedEx au travers des coursiers, des véhicules que vous croisez, effectivement, lorsqu'ils viennent enlever ou livrer des colis dans vos entreprises. Mais FedEx est également une compagnie aérienne, puisque FedEx dispose de 698 avions dans sa flotte, donc une des plus grandes compagnies D'accord. aériennes au monde. Et donc, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses lorsque les colis sont échangés. Changer à chaque coin de la planète. L'histoire de FedEx, FedEx a été FedEx a été créé par un monsieur qui s'appelle Fred Smith, qui a lancé cette entreprise en 1971 et a créé FedEx en 1973 avec l'idée de faire du transport express aérien. Tout d'abord aux États-Unis, et donc lorsque les opérations ont commencé ce jour-là, au bord de 14 avions, ce sont 186 colis qui ont été traités.
D'accord.
Et ces 14 avions étaient des Falcon. Et c'est-à-dire que Monsieur Fred Smith est venu en France rencontrer un monsieur qui s'appelait Marcel Dassault, et il est reparti avec 14 Falcon dans ses valises pour pouvoir lancer ce gros projet qui fait cette entreprise mondiale aujourd'hui. Donc quelqu'un qui est très très proche de la France de par l'histoire de l'entreprise.
Oui, l'origine, en fait, donc c'était avec des avions français.
Avec des avions français, exactement.
C'est bien de le rappeler. Donc c'était un milliardaire, ce monsieur, quand même.
Ce sont des idées. Donc c'est un chef d'entreprise, qui a eu cette idée, qui a créé cette notion de hub. Mm-hmm. Donc la notion de hub, c'est vraiment une idée qui lui était venue lorsqu'il était encore étudiant à Yale, qui avait valu une mauvaise note à l'époque,
d'accord.
mais il a été très combatif et a poursuivi cette idée pour créer FedEx en 1973. Ensuite, tout le développement au cours des années suivantes ont fait qu'aujourd'hui, FedEx est présent partout dans le monde. Nous sommes dans 220 pays et territoires. Il y a à peu près 500 000 collaborateurs dans la planète. En France, nous avons la chance d'avoir ce hub européen sur le site de Roissy-Charles de Gaulle et donc dans 95, dans le Val d'Oise.
C'est ça, le hub le plus important en Europe.
Effectivement.
Après les États-Unis, en tout cas. Enfin, derrière les États-Unis.
Exactement. Le réseau de FedEx dans le monde est organisé autour de grands hubs qui sont situés sur chaque continent. Mmh. Donc on va retrouver aux États-Unis le hub de Memphis qui est le méga hub et qui est là où a démarré l'histoire de FedEx. Et ensuite, si vous regardez sur les différents continents, vous allez avoir en Asie le hub de Canton, le hub de Shanghai, le hub de Dubaï pour le Moyen-Orient et pour l'Europe, pour le territoire européen, pour la région Europe, c'est le hub de Roissy qui est le hub primaire et donc qui est le point de transit entre tous les colis entre l'Europe et le reste du monde, pour les échanges intra-européens, mais également pour l'exportation et soutenir l'exportation et la compétitivité des entreprises françaises.
Alors, comment devient-on vice-président d'un géant tel que FedEx, Julien ?
Je crois que c'est une histoire de passion. J'avais rien à voir avec le transport lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle. J'étais contrôleur de gestion chez un équipementier automobile, mais je me suis rendu compte que c'était pas un métier qui était vraiment fait pour moi. Alors j'ai voulu changer complètement. Je suis ensuite parti dans la presse et j'ai travaillé pour le groupe Figaro, pendant plusieurs années en charge notamment de la logistique et de la production des journaux sur l'imprimerie. Et puis j'ai voulu me rapprocher encore plus du transport parce que j'ai trouvé que le transport était un métier assez passionnant. J'avais commencé à découvrir toutes les facettes et toute la richesse de ces activités. Je suis rentré chez FedEx il y a maintenant plus de 25 ans. Et chez FedEx, c'est une entreprise où finalement nous sommes piqués par la passion et nous y faisons une longue carrière.
C'est ce que j'ai pu voir en préparant le dossier. J'ai fait des recherches et je suis allée sur d'autres profils que le vôtre et j'ai vu en effet que les gens, les personnes restent longtemps dans cette entreprise. Donc c'est la preuve que c'est un bon employeur. FedEx.
Non, tout à fait, et c'est vraiment un employeur qui mise beaucoup sur l'humain et qui donne énormément de perspectives et de possibilités pour les collaborateurs. Si je reviens sur le site de CDG, par exemple, de Roissy-Charles de Gaulle, donc Roissy, le hub de Roissy a été inauguré en septembre 99. On a fêté nos 25 ans il y a quelques semaines, quelques mois. Nous avons ouvert ce hub en 1999, nous étions 507 collaborateurs sur le site. 25 ans plus tard, nous sommes 4000 collaborateurs en emploi de qualité, en emploi en CDI. Et lorsque je rencontre les collaborateurs sur le site, on se connaît tous, on s'appelle tous par nos prénoms, parce que tous ceux qui sont rentrés chez FedEx au fur et à mesure de l'histoire, ils sont toujours, ils ont fait carrière. Et en fait, nous avons un ADN assez particulier sur nos méthodes de recrutement. C'est-à-dire que nous allons recruter sur les territoires là où nous sommes implantés. Donc nous sommes à la fois un acteur mondial dans le monde du transport, mais un acteur très local. En termes de politique de recrutement. Et donc nous allons recruter dans les communautés avoisinantes de l'aéroport et donc notamment dans le Val d'Oise. Nous participons à de nombreux salons. Nous sommes impliqués avec beaucoup d'associations pour l'accès à l'emploi des populations autour de l'aéroport. Nous recrutons ces personnels avec des méthodes de recrutement un petit peu particulières, ce qu'on appelle les méthodes de recrutement sur la base des entretiens comportementaux, ou la méthode de recrutement par simulation. C'est ce que nous avons fait avec Pôle emploi notamment il y a deux ans, puisque nous avons recruté 1200 collaborateurs il y a deux ans en l'espace de 5 mois, 6 mois. Donc c'était un réel challenge, mais nous avons été très bien supportés notamment par Pôle emploi et par le directeur départemental du Val-d'Oise qui a mis toutes ses forces pour nous accompagner dans ces campagnes. Et donc nous recrutons des collaborateurs sans CV, sur l'habileté professionnelle. Nous recherchons vraiment des candidats qui ont envie de s'investir, de s'engager à nos côtés, et ensuite nous allons les former.
Et puis, vous ne vous attachez pas forcément au diplôme.
Nous ne nous attachons pas du tout au diplôme. On est vraiment sur l'habileté professionnelle, et ensuite ces parcours de formation vont nous permettre de pouvoir répondre à nos besoins d'encadrement grâce à la promotion interne. Et au cours de ces 15 dernières années, 100% des postes d'agents d'encadrement et de cadres ont été pris par des candidats en interne dans l'entreprise, donc de très belles carrières au sein de l'entreprise.
Oui, écoutez, bravo, parce que c'est vraiment une belle. On ressent que c'est important que vous nous disiez ça, parce que FedEx, vu de l'extérieur, c'est un géant. On n'imagine pas cette politique comme ça.
C'est une très grande famille. Peut-être pour l'anecdote, au mois de septembre, pour fêter nos 25 ans, nous avons effectivement organisé une porte ouverte pour accueillir les épouses, les enfants, les conjoints de nos collaborateurs et pouvoir visiter cette belle machine qui est le hub de Roissy-Charles de Gaulle et puis de découvrir effectivement les coulisses de nos métiers. Donc c'était une journée passionnante puisque nous avons eu plus de 2500 visiteurs dans la journée.
Et alors moi ça m'a fait rappeler un film que j'avais adoré, Seul au monde avec Tom Hanks. On comprend mieux la démarche du film par rapport à votre
Il y a définitivement un engagement de la part des collaborateurs avec un engagement aussi pour le service, pour les entreprises utilisatrices. Nous avons des collaborateurs qui sont très attachés à la fois à l'entreprise, à leur métier, très investis, qui leur proposent de vraies opportunités de carrière au sein de l'entreprise, mais qui nous le rendent mille fois au travers de leur engagement et du service rendu.
Félicitations pour cette belle politique, en tout cas d'emploi. Alors, on l'a évoqué un tout petit peu, on va parler d'environnement, d'empreinte environnementale. Je crois que c'est un sujet, Laurent l'a évoqué, pour les fermetures de nuit. Julien, je vous laisse nous expliquer quel est l'enjeu et puis quelles sont votre position, comment vous appréhendez cette situation ?
Alors, il y a un enjeu, effectivement, un enjeu fort qui a lieu actuellement au travers de ce que l'on appelle une étude d'approche d'impact équilibré, et donc qui est un processus encadré, sur lequel il y a qui est encadré par des normes internationales européennes, qui vise à définir quel est le qui est là pour définir où le développement d'une activité aéroportuaire et de son empreinte environnementale et quel est l'objectif,
quel est le point qu'on ne peut pas dépasser en fait.
Effectivement, ouais. quel est l'objectif visé pour avoir cet équilibre entre effectivement développement économique et normes environnementales, qu'elles soient pollution atmosphérique ou sonore. Dans cet enjeu, on voit qu'il y a vraiment deux courants qui s'opposent, à la fois d'une part allier réduction des nuisances et maintien de l'activité et de la compétitivité de l'activité économique, le dynamisme économique par ces activités et notamment tout à l'heure on en parlait, l'aéroport est quand même un pôle économique très dynamique. Et puis une autre approche qui est vraiment de sauter sur une approche très restrictive et de restreindre toute activité, voire les condamner. Et donc c'est tout l'enjeu du débat qui a lieu actuellement. On voit un certain nombre de prises de position pour la mise en place de mesures très fortes.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des politiques qui veulent réduire notre activité quelque part.
Et on voit des positions très fortes, notamment l'instauration par exemple d'un couvre-feu entre 23h et 6h du matin. Et la position de FedEx, c'est qu'il est tout à fait possible d'allier la réduction des nuisances et le maintien de la compétitivité du développement économique. Et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Lorsque l'on regarde un petit peu l'activité sur l'aéroport de Roissy, on se rend compte que les progrès techniques qui ont été faits, et notamment par les motoristes et par tous les constructeurs aéronautiques, ont apporté de réels résultats très bénéfiques en termes de gènes sonores notamment.
Vous avez pu calculer.
Calculés au travers d'un indicateur, un indicateur sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et c'est près de 35% de réduction de bruit qui a été opéré depuis que cet indicateur existe au cours des 20 dernières années. Donc on voit qu'il y a une vraie tendance et on voit également que les dernières générations d'avions qui sont aujourd'hui fabriquées sont très prometteuses et vont apporter de réels bénéfices également. Donc je pense que on a quand même des leviers, des leviers technologiques qui nous permettent d'aborder ce sujet. Et puis après, il y a des leviers également opérationnels. Je ne veux pas rentrer dans un discours technique, mais en tout cas, il y a effectivement des mesures opérationnelles qui permettent de réduire les nuisances pour la riveraineté autour des aéroports. Donc je pense qu'on peut maintenir cet équilibre entre réduction des nuisances, et nous sommes tous d'accord sur le principe et sur la démarche, et ce sont les investissements qui sont faits par les compagnies. Si je prends l'exemple de FedEx, ce sont 12 milliards de dollars qui ont été investis depuis 2018 dans le renouvellement des flottes, et donc pour acheter des avions neufs, des avions très performants, et ce sont ceux que nous utilisons et que nous fléchons sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle notamment.
Et donc vous le ressentez comment dans les mois à venir ce débat qui est instauré?
Je crois qu'il y a énormément de pédagogie et d'explications à faire autour de ce qui a déjà été fait, ce qui existe déjà sur l'aéroport de Roissy. On peut entendre par exemple que le nombre de mouvements est en train de croître de manière exponentielle sur l'aéroport de Roissy. Ce n'est pas le cas. Sur les vols de nuit, c'est encore moins le cas. Il y a déjà une réglementation qui est en place. Donc, si on regarde l'activité sur les vols de nuit, ils sont déjà encadrés dans le cadre de l'arrêté d'Europien depuis 2003. Et donc, là où il y avait 25 000 avions de nuit en 2003, il y en a 17 500 aujourd'hui. Donc, c'est 25% de réduction déjà sur cette période. Donc, il y a déjà un encadrement réglementaire. Et tout à l'heure, Monsieur le Président parlait de stabilité.
Non, c'est bon.
Laurent parlait de stabilité réglementaire, et c'est, je pense, le maître mot. Avoir de la stabilité réglementaire, avoir de la visibilité sur le temps long. FedEx investit plus de 600 millions sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Nous avons recruté 1200 collaborateurs il y a un an et demi encore. Nous sommes 4000 aujourd'hui. Nous avons fait une étude d'empreinte socio-économique sur le territoire pour voir un petit peu quelle était notre emprise et notre impact sur le territoire et sur la région Île-de-France et l'Oise en particulier, enfin au sens large. Et effectivement, je pense que ces sujets sont vraiment à mettre en perspective, et cette stabilité réglementaire est nécessaire.
Et complètement nécessaire, oui.
Alors, elle est nécessaire pour les entreprises qui investissent, comme nous l'avons fait, mais elle est nécessaire aussi pour les entreprises utilisatrices, puisque nous sommes au service de la compétitivité des entreprises du territoire. Et ces entreprises ont, elles aussi, besoin de visibilité pour pouvoir avoir une offre et avoir de la stabilité, une stabilité durable dans leur développement, dans leur croissance.
Investir, enfin, faire toutes les démarches pour faire croître l'entreprise. Merci Julien, je vous propose de faire une courte pause et puis on revient à ce débat. À tout de suite.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct et ce matin, c'est notre spécial CPME et je suis en train d'interviewer Julien Ducoux, vice-président du hub de FedEx à Charles de Gaulle. Julien, dans cette démarche de respecter l'empreinte environnementale, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les vols commerciaux, les soutes des vols commerciaux, j'ai découvert.
Oui, tout à fait. C'est effectivement aussi une des raisons pour laquelle FedEx a choisi l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans le choix de son implantation au milieu des années 90 et ce hub qui est ouvert depuis 1999. C'est le fait de concilier à la fois l'activité cargo, l'activité fret et l'activité passager. On a la chance sur cet aéroport d'avoir deux acteurs majeurs. D'un côté FedEx pour la partie cargo, mais l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est un des premiers aéroports d'Europe en termes de connexion pour les passagers. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% du fret aérien mondial est transporté dans les soutes des vols passagers, toutes activités confondues. Et on parle principalement du général cargo. Et c'est ce que nous faisons aussi, nous, en tant qu'expressistes. C'est-à-dire que nous avons des accords avec de nombreuses compagnies sur l'aéroport et nous remettons énormément de fret dans les soutes des vols passagers. Et bien évidemment, Air France en premier lieu, puisque l'aéroport de Roissy est également le hub de la compagnie nationale, la compagnie Air France.
Alors moi, je me posais une question très naïve. On en a parlé avant l'émission. Parce que je me disais, mais comment gérer l'espace des soutes, puisque je pensais qu'il fallait d'abord savoir le taux de réservation d'un avion pour pouvoir ensuite mettre vos colis, mais c'est pas ça du tout, vous m'avez dit.
Alors,
c'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple, oui et non. Oui, puisque la manière dont nous travaillons, alors FedEx en tant qu'expressiste, nos clients sont principalement des entreprises. Nous faisons beaucoup, notre activité première est vraiment du B2B. Mmh. Nous faisons de la livraison et des garanties. Et donc, nous sommes intégrés dans les chaînes de production des entreprises. Et donc, ça doit être quotidien. Ce qui veut dire que nous allons acheter des espaces dans les soutes des vols passagers de manière quotidienne. Nous travaillons et nous avons du fret dans des soutes de 400 vols par semaine à l'arrivée ou au départ de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de vols passagers.
Mais donc des espaces qui existent.
Des espaces qui existent et qui sont réservés. Lorsque vous prenez les nouvelles générations d'avions, certains avions disposent de soutes avec des capacités qui sont bien au-delà de ce qui est requis pour uniquement les simples bagages des passagers et donc qui laissent de la place pour la partie fret et nous remplissons ces soutes tous les jours au départ de CDG vers un certain nombre de destinations.
Voilà, et ça fait des revenus aussi pour les compagnies.
Et c'est un complément de revenus, bien évidemment, sur la rentabilité des lignes des compagnies aériennes.
Merci Julien. Alors Julien, la question incontournable, vous êtes un adhérent de la CPME 95. Expliquez-nous les raisons de cette adhésion.
Je pense que FedEx aujourd'hui, de par sa présence sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sur le territoire du Val d'Oise, en tant que, je pense que nous sommes un des plus gros employeurs du Val d'Oise, si ce n'est pas le plus gros, je ne voudrais pas m'avancer à tort, mais en tout cas, je pense que nous faisons partie des plus gros employeurs du Val d'Oise. Et notre activité, comme je vous le disais, notre 90% de nos clients, de notre portefeuille de clients, sont des PME que nous accompagnons pour leur développement économique et notamment à l'export. Et donc, il nous semble assez naturel d'être membre de la CPME et d'accompagner effectivement aussi les adhérents, mais également d'échanger sur tous ces sujets pour favoriser le développement économique de toutes ces entreprises.
Très bien, merci infiniment. Merci Julien, vice-président du Hub FedEx dans le Val d'Oise. On vous sent très épanoui. Je me disais peut-être que si des auditeurs nous écoutent et veulent postuler pour venir travailler chez FedEx, c'est possible.
Enfin, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Nous avons une plateforme sur laquelle ils peuvent tout à fait candidater, donc sur Internet, et nous retrouver pour ensuite les accueillir avec grand plaisir.
Très bien, merci beaucoup. Je crois que notre président Laurent Pillard veut poser une question.
Alors, c'est pas tant une question, c'est une réflexion. Tout à l'heure, on parlait de réglementation, etc. dans les réglementations qu'on pourrait peut-être qualifier d'intelligentes, hein, parce que j'y pense là à l'instant. FedEx l'expliquait là, Julien, ils sont confrontés à des associations qui sont contre les vols de nuit, etc.
Oui, oui.
Et c'est vrai que quand on avait préparé le dossier pour notre conférence de presse, je m'étais rendu compte que quand même FedEx existe depuis 50 ans. Vous avez fêté vos 50 ans. Vous savez que les propriétaires, à chaque propriétaire change d'habitation à peu près tous les 25 ans. Donc ça fait déjà deux générations de personnes qui ont changé de logement, mais qui habitent toujours le secteur de Roissy. Et il y a toujours des associations d'habitants qui se plaignent du bruit des avions.
Oui.
Bon, je pense qu'il y a un moment, bah, peut-être qu'on pourra réglementer. Il y avait une idée qui était sortie au moment de la conférence de presse, à savoir, est-ce que dans les actes de vente, les actes notariés, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une ligne que quand ils achètent leur habitation, que ce soit un appartement ou leur maison, ben ils sont dans une zone, voilà, où il y a un aéroport et donc oui, il y a du bruit et donc voilà, donc ils acceptent d'habiter dans à cet endroit-là avec forcément cette contrainte-là. Parce que j'ai rencontré moi une association qui m'a fait part de choses complètement hallucinantes. Le logement a été, c'est un lotissement qui a été fourni en juin 2023, donc sur le secteur de Godès. Les gens prennent le lieu dans un petit lotissement, 50 maisons. Il y a juin 2023, en septembre 2023, ils montent une association contre le bruit des avions.
Ouais, ouais.
Quand la personne me raconte l'histoire, je dis mais qu'est-ce que c'est ? Il fait, ben, je demande au président de l'association, mais je comprends pas, vous venez d'acheter là et tout. Ah oui, on se rendait pas compte du bruit. Bah, je pense qu'effectivement, bon, je vais garder des noms d'oiseaux pour aujourd'hui.
Ou alors ils avaient acheté l'appartement comme dans le fameux film,
Non mais voilà, et là, la réglementation intelligente, ça peut être ça. Et parce que vous vous rendez compte l'impact de ça pour FedEx. FedEx, mais c'est pas que FedEx. FedEx, je pense que les grandes villes d'Europe les attendent à bras ouverts s'ils le souhaitent. Mais il l'a dit Julien, c'est 4000 salariés, c'est la plus grosse entreprise, c'est 50 000 emplois indirects autour de Roissy. Et on peut pas juste parce qu'il y a une association de 40 personnes qui viennent d'arriver en se disant ah oui, ça fait du bruit les avions, on savait pas. Donc bon, à un moment faut arrêter.
J'ai reçu la dernière fois que j'ai reçu Sébastien Ramé et puis William Vinan là de la Fédération française du bâtiment. Ils ont émis aussi une idée qui me semble bien, il faudrait peut-être la creuser, à savoir que dans tous les programmes de rénovation, peut-être inclure une réglementation pour justement contre les bruits sonores. Et puis voilà, ça peut être, enfin je sais pas, c'est peut-être
il existe déjà aujourd'hui une aide à l'insonorisation des logements qui est financée par les compagnies aériennes qui payent une taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA. Et donc les compagnies abondent effectivement au travers de cette taxe une caisse qui permet d'insonoriser les logements. Et donc il y existe une carte de bruit qui permet de définir quels sont les logements qui peuvent bénéficier de cette aide à l'insonorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'il y a 70 000 logements qui ont déjà été bénéficiaires. Il en reste 40 000.
D'accord.
Et donc je pense que une des pistes également, c'est d'accélérer, c'est l'accélération, puisque cette taxe aujourd'hui permet de financer un certain nombre de travaux d'isolation. Je savais qu'il y avait un reste à charge qui restait important et donc tous les fonds n'étaient pas utilisés. Ça pouvait freiner effectivement certains bénéficiaires. Ces plafonds ont été revalorisés. Et donc, ce qui va rendre, je l'espère, un accès plus facilité, et puis une accélération pour les 40 000 logements restants. Mais il existe
ça
déjà.
Ça existe.
Fond,
voilà. C'était important de le rappeler alors.
Et pour rejoindre ce que disait Laurent, effectivement, cette notion d'indice, on l'a aujourd'hui sur l'isolation thermique. Mais je pense que l'aspect phonique peut effectivement être quelque chose d'intéressant
et
une piste à creuser. Tout à fait.
Merci infiniment. Voilà, c'est l'heure d'une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve juste après.
Dans mon monde, je compte les secondes. Je vois passer le jour. J'aimerais en faire le tour. J'ai tous les mots qui collent à ma peau. J'ai tant de choses à dire, mais si peur d'en souffrir. Est-ce qu'on m'entendra un jour? Est-ce qu'on m'entendra de loin? Est-ce qu'on m'attendra toujours? Est-ce qu'on m'aimera demain? Être aimé pour de vrai? Et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie. Car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans les yeux. Par la fenêtre, je vois passer mes rêves. Ils s'envolent avec le temps, ils s'envolent après le vent. Mais cette fois je me lève pour enfin être celle qui a eu tout le courage de toucher les nuages. Je commence à y croire, je trouverai ma place un jour, je trouverai enfin ma voix. Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie. Car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans nos yeux. Je veux qu'on me regarde.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à 11h, c'est l'économie en direct et pour cette spéciale CPME 95, je suis toujours en compagnie de Laurent Pillard, président de la CPME 95, Julien Ducoux, vice-président des opérations Hub FedEx Charles de Gaulle, Jean-Pierre Duquesne, président de la Fédération des entreprises de propreté Île-de-France et chef d'entreprise de propreté Netindus, et Vincent Mazuréel, directeur de Enertrag, producteur indépendant d'énergie renouvelable. Alors Jean-Pierre Duquesne, président de cette Fédération de la propreté Île-de-France et puis de votre entreprise Netindus, on a eu le plaisir de se croiser lors des vœux de la CPME 95. Je vous laisse vous présenter, Jean-Pierre.
Oui, donc je suis entrepreneur dans le Val d'Oise depuis 38 ans. Mais je suis aujourd'hui ici surtout au titre de cette fédération que je préside depuis un certain nombre d'années. J'en suis à mon deuxième mandat. Je vais vous parler des chiffres nationaux, hein, puisque la propreté, c'est 600 000 salariés. 16 000 entreprises pour une activité globale de 18 milliards environ. Donc une activité, comme je viens de vous le dire, à forte intensité de main-d'œuvre, bien entendu.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, je suis ravi que vous m'ayez invité parce que nous sommes tous entrepreneurs de la propreté, très inquiets face à ce projet de loi de finances qui a été bien, dans un premier temps, retoqué par l'Assemblée, mais qui est au Sénat. Comme le disait le président Pillard, risque de revenir sous forme de 49-3. Donc on milite beaucoup en ce moment. On fait beaucoup de lobbying auprès de nos députés, de nos sénateurs, pour que essayer que ce coût du travail qui risque de nous être imposé par une augmentation assez importante le soit, qu'il y ait un compromis en tout cas.
Bien sûr.
Parce que notre profession est une profession...
C'est-à-dire qu'en fait, s'ils veulent réduire les allègements, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une profession où la marge est infra à 3%.
Oui.
D'une manière... ce sont les ratios nationaux et ça a été fait par des cabinets indépendants.
Parlez bien en face du micro.
Ça n'est pas Jean-Pierre Duquesne qui le dit, ce sont un cabinet indépendant qui a fait cette étude. Donc des marges infra à 3%. Si pour cette profession à forte intensité de main d'œuvre où le coût du salaire représente 70% quand même de notre coût global, vous supprimez les allègements sur les bas salaires. Le cabinet Xerfi a fait une étude qui démontre que ce serait une diminution de près de 50% marge nette des entreprises.
Oui.
Ce qui poserait, bien entendu, et à tout un chacun, de gros soucis d'exploitation. Et au-delà de ça, un manque de visibilité complet, une remise en question des investissements,
oui, de toute la stratégie qui a été mise en place.
C'est une vraie problématique que l'on a devant nous là, et je rejoins et je rebondis sur ce que disait le président tout à l'heure, c'est-à-dire que cette incertitude ne va pas de pair avec une gestion au repère de famille d'une entreprise.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Lorsqu'on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir cette visibilité pour pouvoir se projeter et mettre en place des plans.
Là, on a besoin de se rassurer que l'avenir est, ouais.
est... Alors aujourd'hui, moi je porte moi et beaucoup d'autres chefs d'entreprise de mon métier, portons cette parole, on essaie de faire du lobbying auprès de nos élus. Ils l'entendent.
Oui, oui.
Mais... ils l'entendent.
Oui. Voilà. Bref.
Souhaitons que ça aille un peu plus loin que ça. Après, on est tous conscients que notre économie nationale est mal en point et que on va devoir tous faire des efforts ou des compromis. Mais j'espère, et en tout cas, je souhaite de tout cœur que ce soit à minima un compromis et pas une suppression des allègements de charges qui mettrait à mal l'ensemble de nos entreprises.
On est tous un petit peu dans cette situation d'attente hein, des décisions qui vont être prises. Alors, en même temps, moi, toujours en préparant le dossier, j'ai vu que les Français considéraient la propreté comme indispensable et que les agents de propreté jouent un rôle essentiel pour garantir la santé, la sécurité sanitaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui.
Non, vous n'êtes pas aussi optimiste.
Si, bien entendu, et cela me semble évident, mais on est malheureusement un métier qui, d'ailleurs, puisque vous en parlez à l'occasion de cette crise sanitaire que l'on a tous connue, a été mis dans la lumière, hein, puisque nous avons fait partie de ces entreprises qui ont contribué à la continuité économique et sociale de notre pays. Et force est de constater que, passé cette crise, on est retombé vite dans l'ombre.
Oui, c'est ça. Oui, on oublie vite. Hein, ouais.
Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, nous sommes très nombreux. Je vous le disais, 16 000 entreprises. Cela devrait faire notre force. Et paradoxalement, ça fait bien, il me semble, en tout cas, c'est plus une faiblesse qu'une force en ce qui nous concerne, que chez nos clients, on a du mal à faire valoir ce service, enfin,
oui, votre expertise.
Voilà. Et que souvent chez nos clients, c'est une variable d'ajustement la propreté, ce qui est une aberration dans leur budget en tout cas, je l'entends, puisque c'est à mon avis du perdant-perdant. Soit vous allez jouer sur le prix, il y a deux façons de jouer sur le prix de la propreté, dont le coût est représenté à 70% par du salaire, je le répète.
Oui, oui.
Soit vous allez modifier le cahier des charges et les fréquences. Donc là, c'est pour l'occupant et l'utilisateur au quotidien. Soit vous allez augmenter les cadences. Et ça, c'est les conditions de travail de nos propres salariés qui vont être dégradées.
C'est au détriment, oui.
Voilà. Donc c'est pour ça que je vous parlais de perdant-perdant. Après, j'entends que les budgets propreté pour une entreprise, pour nos clients, sont des budgets importants. Je l'entends, cela. Mais vous l'avez dit il y a 5 minutes, les gens sont très sensibles maintenant au bien-être au travail. Hein, ils en ont besoin d'aller le matin au travail et de se sentir bien dans des locaux qui sentent bon, où les sanitaires sont bien entretenus. Bon, tout ça est très important pour se sentir bien et réaliser mieux sa prestation. Voilà.
Je crois aussi que vous êtes dans une activité où il y a beaucoup de concurrence et puis de la concurrence déloyale.
Déloyale, je sais pas, mais comme vous le disiez, nous sommes nombreux.
J'ai reçu une de vos consoeurs dans la dernière spéciale CPME.
Qui est adhérente de la...
Oui, je la connais.
Et elle se plaint un petit peu, elle parle de l'ubérisation du nettoyage.
Vous savez, moi je parlerais plus d'une massification à ce les grandes entreprises. Nous sommes 16 000, je vous l'ai dit.
Oui,
les grandes entreprises, on va dire, allez, une centaine va représenter le haut du panier. Ils détiennent à eux seuls 80% de la masse salariale de notre métier. Vous voyez ce que je veux dire? Après, concurrence déloyale, s'agissant d'une profession qui n'est pas réglementée, il est compliqué d'aller sur ce terrain-là. Hein. Mmh. Il est très compliqué. Donc, je ne m'y aventurerai pas en ce qui me concerne.
On oublie la question.
Mais pour en revenir à votre question qui est fondamentale, bien sûr que nous sommes confrontés à une... j'oublie les mots.
Numérisation.
Il y a une...
Ça va vous revenir.
Oui, ça va me revenir. Mais bon, il est compliqué de mettre en face de plusieurs entreprises des prix ou des façons de... Non, chacun a son modèle économique. Et la concurrence, voilà, je parlais de concurrence. La concurrence, elle est légitime et elle est saine.
Oui.
Elle est saine. Moi, je pars plutôt de ce postulat-là. Après, que certaines entreprises ne soient pas aussi vertueuses qu'elles devraient l'être, c'est un autre débat et il ne m'appartient pas à moi d'aller sur ce terrain-là.
Je comprends. Et votre fédération, elle a suffisamment de poids aujourd'hui pour pouvoir parler avec les pouvoirs publics.
Nous sommes bien représentés et bien entendus par les pouvoirs publics. Mon président national n'arrête pas en ce moment. Il se démène, mais aussi tout. Nous avons 9 régions et tous les présidents que nous représentons de ces régions, dans chacune de nos régions respectives, comme le disait Laurent, là, il faut aller au combat, il faut aller voir, rencontrer nos élus, leur porter la bonne parole, parce que c'est pas un métier, quand bien même tout le monde est bien content d'aller de rentrer dans les locaux propres, c'est pas un métier comme ça, de prime abord, essentiel, alors qu'il l'est. Et ils sont sensibles au discours que l'on porte, en tout cas. En tout cas, ces derniers temps, c'est l'impression que cela m'a donné. Voilà.
Vous avez votre besoin, c'est d'avoir de plus en plus de visibilité.
Voilà, et puis exactement. Pouvoir se projeter. Aujourd'hui, puisque vous parlez de cela avec nos partenaires sociaux, tout comme nous, ils ont besoin, parce que là, c'est un petit peu au point mort. Tout le monde attend de savoir à quelle sauce nous allons manger. Parce que comment nos clients, nous-mêmes, ont des budgets à préparer, etc., nous demandent.
C'est ce que disait Laurent un peu en début d'émission.
En 2025. Mais comment faire? On va pas y aller d'une manière pifométrique.
Bien sûr.
Il nous faut une visibilité. Pour que non seulement on puisse, d'une manière apaisée, constructive et vertueuse, négocier avec les partenaires sociaux, mais également pouvoir présenter à nos clients, éventuellement, vu les conditions actuelles, certaines revalorisations, mais qui se justifient. En 2022, on a créé un index propreté, qui a été reconnu par l'INSEE, etc. Et selon les derniers chiffres de l'INSEE, durant ces 2 dernières années, cet index propreté a augmenté 2 fois plus vite que le prix de nos prestations.
D'accord.
Alors vous rendez bien compte que là, il y a un vrai souci économique.
Il y a un vrai souci économique.
Et si je rajoute à cela qu'au cours de ces 3 dernières années, les minimums hiérarchiques de notre profession ont été revalorisés de près de 15 points, je vous ai tout dit, il y a une balance économique qui n'existe pas, là, il y a un problème.
Il y a un vrai problème, oui. Jean-Pierre, vous avez des événements à nous annoncer, le Salon des partenaires, aujourd'hui, le 19 novembre aux Invalides.
Oui.
Et puis, vous avez d'autres meetings.
Oui, tous les ans, on fait un meeting qui permet de regrouper l'ensemble de nos adhérents. Meeting au cours duquel, alors qui aura lieu en février.
Oui, le 11 février.
Meeting au cours duquel, ça permet à tous nos adhérents de se regrouper, d'échanger. Et on fait aussi, au cours de ce meeting, un job dating.
Oui,
où l'ensemble des jeunes, parce que c'est une profession inclusive, quoi. On accueille beaucoup de gens éloignés de l'emploi et on les forme, ça il faut le dire et il faut le souligner. Cette profession a créé au cours des 10 dernières années 110 000 emplois nets, je dis bien nets. Donc on a aussi contribué, cette profession, à la diminution du chômage dans ce pays. Cette remise en cause de notre modèle économique mettrait à mal belle dynamique et ça serait, il me semble, bien dommage.
Et je pense que c'est une activité aussi où on peut facilement se mettre à son compte, enfin créer sa propre entreprise.
Oui, ce que vous disiez, il n'y a pas de droit d'entrée, bien heureusement, parce qu'une profession réglementée, c'est encore d'autres problèmes. Ouais. Mais on est intégrateur, on est formateur, et ça, il faut le revendiquer.
Il faut le revendiquer. Ouais, ouais. Vous faites bien de le faire. Jean-Pierre Duquesne, ma dernière question, vous êtes adhérent de la CPME 95. Depuis quand déjà êtes-vous adhérent?
Alors moi, c'est assez récent. Alors pourquoi j'ai accepté d'adhérer à la CPME? J'étais jusqu'alors, enfin moi j'ai une représentation MEDEF aussi, je suis au conseil d'administration du MEDEF Paris.
On n'a pas le droit de dire des gros mots à l'antenne.
Je me doutais que tu allais dire ça. Mais...
Bon, vous reviendrez parce que...
Je plaisante, MEDEF, je salue le président du MEDEF 95, Frédéric Enfray.
Au-delà de... Au titre de la fédération, on nous demande, nous présidents, d'être représentés ou représentatifs dans certaines
instances. Oui.
Voilà. Et puis j'ai rencontré Laurent qui m'a parlé de la CPME que je connaissais bien entendu. Hein. Et comme je fais partie de ces entreprises du Val d'Oise, de ce tissu économique du Val d'Oise, et que j'ai besoin d'avoir, ne faisons pas de langue de bois, j'ai besoin de réseau, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'échanger avec des pairs, et tout cela est à mon avis essentiel, donc c'est encore, il me semble, pour une entreprise comme la mienne, un levier supplémentaire pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure implantation, enfin voilà. Et en plus, il se trouve que je m'entends bien avec le président, donc ça va.
Ça tombe. Alors, ce serait compliqué de pas bien s'entendre avec le président.
Je rajouterais juste qu'avant de bien s'entendre avec le président, il s'entendait bien avec l'épouse du président.
Oui, c'est parce que... vous le savez, vous, madame. Je suis juge consulaire à Pontoise. Et c'est vrai que nous sommes de la même promotion que l'épouse de monsieur Pierre.
Très bien. Voilà.
Qui vous embrasse, Jacqueline.
Oui, nous aussi, on l'embrasse, Marie-Ange, comme à chaque fois. Merci infiniment, Jean-Pierre Duquesne, merci pour ce tour d'horizon très complet, de votre activité.
Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu.
Je vous en prie. Oui, et je donne quand même la parole avant de passer avec Vincent à Laurent qui veut ajouter quelque chose.
Oui, alors très rapidement, ce qui est bien, c'est que le préfet du Val d'Oise, je tiens à souligner son travail, donne du travail aux entreprises de propreté du Val d'Oise. Vous savez que ces opérations coup de poing
qu'il fait dans les hypermarchés, restaurants.
Il a fermé quand même à fin octobre près de 80 établissements des fermetures administratives. Et c'est vrai que pour revenir, voilà, c'était pour rebondir un peu sur cette notion de concurrence déloyale. Quand on voit les photos des établissements, que ce soit des supermarchés ou des restaurants, je pense que c'est une vraie concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui sont dans les règles et dans les normes d'hygiène. Et c'est important ce travail-là. Et pour le coup, je sais qu'il y a un adhérent de la FEP qui a travaillé, qui a eu beaucoup de boulot sur un site suite à un contrôle de la préfecture. Donc c'est une chose importante. Mais après, la préfecture aussi main dans la main avec, je pense, les fédérations localement ou les entreprises où il y a un vrai problème de travail. Alors souvent assimilé travail dissimulé, qu'on peut dire, ou mais il faut faire attention. Les entreprises sont vigilantes.
Bien sûr.
Mais quand vous avez des gens, des spécialistes des faux papiers, si vous voulez, des usurpations d'identité, je pense que chez FedEx, c'est pareil. Ils peuvent aussi faire attention, au niveau de l'embauche, parce qu'on a parfois des entreprises dans cet secteur d'activité, bâtiment ou entreprise de propreté, où ils peuvent rencontrer des difficultés. Les faux passeports italiens, ça existe. À l'embauche, les entreprises sont très vigilantes. Et c'est aussi le travail des fédérations que représente Jean-Pierre, notamment, où il y a une vraie notion de d'information auprès de leurs adhérents.
Si je peux me permettre, vas-y. C'est, il me semble, pas tout à fait exact.
Pas trop longtemps, Jean-Pierre, parce que je vais absolument donner la parole à Vincent.
On a une profession qui est assez vigilante là-dessus, et on est souvent pointé du doigt, mais ça n'est pas vers nous qu'il faudrait... Alors effectivement, nous employons une main-d'œuvre étrangère, essentiellement étrangère, nous ne voilons pas la face, mais ça n'est pas simplement dans notre métier que cela se passe, et on est plutôt vertueux en la matière, en tout cas.
Oui. Julien, du coup, vous vouliez ajouter aussi quelque chose?
Juste répondre effectivement sur le sujet de de travail ou de papier qui pourrait être enfin, remis en question, remis en doute. Sur l'aéroport, c'est quelque chose de très contrôlé.
Oui,
les salariés doivent détenir une habilitation qui est délivrée par la préfecture de police. Les salariés font l'objet d'une enquête, une enquête de moralité, en plus de leur casier judiciaire. Donc, enfin, il y a vraiment tout un travail parce que effectivement, on travaille en zone sensible, on est en zone internationale, et donc il y a énormément de contrôles qui sont autour de ces activités.
J'ai même entendu dire que quand on visitait votre entreprise, il y avait beaucoup de contrôles.
Il y a beaucoup de contrôles, et d'ailleurs, je vous invite,
je confirme, sur
ce plateau, à venir nous rendre visite.
Volontiers. On va faire une courte pause parce que je voudrais quand même laisser un temps de parole suffisant aussi à Vincent. À tout de suite.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission spéciale CPME 95 qui nous offre l'opportunité d'accueillir son président Laurent Pillard et trois de ses adhérents, Julien Ducoux, vice-président des opérations Hub FedEx Charles de Gaulle, Jean-Pierre Duquesne, président de la Fédération des entreprises de propreté Île-de-France et chef d'entreprise de l'entreprise Netindus, et Vincent Mazuréel, directeur de Enertrag, producteur indépendant d'énergie renouvelable. Alors Vincent, peut-être quelques mots sur votre parcours et celui d'Enertrag.
Alors pour commencer avec mon parcours, donc Vincent Mazuréel, je suis belge, ça s'entend tout de suite certainement à mon petit accent. Donc j'ai commencé fin des années 90, comme on dit, fin des années 90 en Belgique, à travailler sur les énergies renouvelables, quelque chose qui était encore très peu connu à l'époque.
Oui.
Quand on demandait aux personnes c'est quoi une éolienne, même moi inclus, je ne savais pas, ou on pensait que c'était les anciennes moulins à vent avec lesquels qu'on faisait du grain, donc des moulins mécaniques. Mais donc on a commencé à travailler sur d'abord l'éolien et puis le photovoltaïque. Donc fin des années 90, commencé à travailler en Belgique. La Belgique, connue pour ses vastes étendues et surfaces, donc assez vite je me suis retrouvé en France.
Vincent, excusez-moi, vous aviez un parcours académique dans ce domaine?
Non, pas du tout.
Non,
en fait, j'ai une formation management et économie, ce qui fait que, comme 80% de mes collègues, on a fait notre stage au sein d'une banque, la fameuse banque Dexia, où je suis resté pendant 2-3 ans et assez vite, j'avais fait le tour. Et c'est juste par coïncidence que je suis roulé là-dedans
à travers
une connaissance commune, et parce que le bureau d'études qui y croyait se trouvait à 5 minutes à pied de mon appartement à l'époque, à Gand. Et donc, mais assez vite, on a commencé à s'exporter, on a commencé à travailler sur le sujet des énergies renouvelables en France en 2001. Puis 2002, on a commencé à travailler sur le développement au Brésil. Et puis j'ai fait pas mal de tours là entre Amérique latine et l'Europe. Jusque 2005, là, il y a eu une vente de toutes les activités. C'était pour le compte d'une petite structure, mais qui a été rachetée par Electrabel. Electrabel qui était la filiale de Suez.
D'accord.
Suez, GDF.
Mmh. Oui.
Gaz de France, qui est aujourd'hui Engie. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu le parcours. Donc ça fait un peu plus que 10 ans maintenant que je suis le directeur général pour Enertrag. Donc Enertrag, c'est une société européenne d'origine allemande. Donc c'est le fondateur, un monsieur qui s'appelle Jörg Müller, qui a eu l'idée, qui a commencé encore plus tôt que moi-même, début des années 90, début des années 90, dans le nord-est de l'Allemagne, qui croyait aussi dans la nécessité de développer des énergies renouvelables. Donc formé ou formaté pour développer et travailler dans des centrales nucléaires, il était convaincu qu'il y avait de la place aussi pour des autres formes de production d'énergie. Il a développé cette forme d'énergie dans le nord-est de l'Allemagne. Et donc, voilà, un peu plus que 10 ans d'années qu'on travaille ensemble et que je m'occupe donc pour la partie France. Donc au niveau monde, nous sommes un peu plus que 1100 collègues.
Ah oui.
Nous sommes présents dans une dizaine de pays. On va dire les deux piliers en Europe, c'est France et l'Allemagne, et je suis assez fier de dire quand même que les 3 dernières années, avec la France, on faisait plus que la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Évidemment, parce que le développement des énergies renouvelables, ça prend du temps. Mais donc les deux piliers, France, Allemagne, et donc les autres pays où nous sommes présents, c'est l'Afrique du Sud, Namibie, l'Uruguay, Tunisie, Vietnam, Pologne. Voilà, pour en citer quelques-uns. Et donc, typiquement, ce qu'on fait aussi, c'est un petit peu comme le hub de FedEx aussi. On soutient toutes les nouveaux hubs qui démarrent dans les autres pays ou les autres continents pour leur expliquer comment ça marche et pour former aussi les personnes sur le métier pour le développement, la construction et l'exploitation de toutes ces installations. Donc historiquement, on avait la spécialité de développer, de construire des parcs éoliens. Depuis une petite dizaine d'années, on développe aussi donc les installations photovoltaïques.
D'accord.
Mais des installations photovoltaïques un peu atypiques, on va dire, c'était surtout sur des friches industrielles, sur des anciennes décharges, sur des déchetteries, donc des grandes surfaces, on va dire. Et puis depuis 3-4 ans, on travaille beaucoup aussi sur l'agri-photovoltaïsme. L'agri-photovoltaïsme, donc c'est en fait des structures qui sont construites sur des zones agricoles pour protéger, on va dire, les cultures qui sont cultivées en dessous, ou parfois pour sur des élevages des bovins ou des animaux qui sont propices là pour accueillir ces types d'installations. Donc au niveau de la, je vais peut-être juste encore un petit mot sur la France. Au niveau de la France, donc nous sommes 125 collaborateurs. Le siège, il se trouve à Neuville-sur-Oise, donc dans le Val d'Oise. Ce qui fait le lien justement avec la CPME, il est pourquoi, comment, on se connaît très bien.
À côté de CY, j'ai pu voir votre bâtiment il n'y a pas très longtemps.
Exactement, ouais. Exactement. Donc on est basé à côté de l'université CY. Et en termes d'accès, c'est quand même très pratique. Donc ça, c'est le siège, là où il y a 70 personnes qui sont attachées. Et puis après, on a encore des bureaux sur Amiens, Saint-Quentin, Dijon, Lyon. Et bientôt Toulouse aussi. Voilà. Donc c'est important aussi d'avoir la proximité. Au vu de notre activité, on a besoin d'être à proximité de nos projets.
Voilà, et sur le marché, vous vous positionnez comment par rapport à, parce que vous avez, là aussi, il y a de la concurrence dans ce domaine.
Il y a de la concurrence, en effet. On va pas se comparer avec Total Energy, EDF et Engie. Ça, c'est évidemment les grandes entreprises qui se sont lancées sur le segment des énergies renouvelables aussi, mais plus en rachetant des actifs. Nous, on a tout fait de A à Z. Donc, il y a une petite dizaine de IPP, comme on les appelle. C'est des Independent Power Producers. Ce sont des fabricants indépendants de l'énergie renouvelable. On a une bonne dizaine qui se retrouvent dans un mouchoir de poche qui sont assez compétitifs sur le marché français et typiquement qui travaillent beaucoup à la fois sur le développement et l'exploitation de l'éolien et du photovoltaïque. Historiquement, beaucoup plus de développement de l'éolien. Et là, depuis 2 ans, il y a de plus en plus des projets photovoltaïques qui commencent à prendre le dessus.
Merci Vincent Mazurel. Alors je profite de votre venue à cette époque là aujourd'hui, on est en novembre, parce que j'ai pu voir aussi en préparant le dossier que vous souteniez un skipper du Vendée Globe. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'en parler, parce que voilà, on peut allier l'actualité à votre activité. C'est une passion pour vous de soutenir comme ça un skipper?
Bon, absolument. Ben déjà de base, on a pas mal d'affinités avec notre filière. Donc nous, on travaille, une partie de notre filière travaille avec le vent. Donc on a besoin d'étudier le vent et d'optimiser donc la conversion de l'énergie du vent pour produire de l'électricité. En fait, c'est un petit peu la même logique qu'on a avec les skippers. Et puis nos héros là qui font le tour du monde en voilier toute seule, c'est quand même assez impressionnant.
Ah,
et
oui,
puis
les
parallèles sont assez évidentes, on trouve. Et surtout le projet de Fabrice Amedeo, donc nous soutenons. Et très intéressant aussi quand il nous a contacté il y a un peu plus que 2 ans déjà, quand il a expliqué son projet. Donc non seulement il veut faire le tour du monde 100% renouvelable et faire de la promotion aussi pour les énergies renouvelables et les avantages de ces formes de production, mais aussi il fait des recherches aussi sur les microparticules de plastique. Il fait plein de recherches aussi pour essayer de contribuer, comment est-ce qu'on peut améliorer l'environnement, comment est-ce qu'on peut donc
nettoyer les océans,
pour mieux nettoyer les océans, ou pour surtout essayer de réduire la pollution des océans et de l'environnement d'une manière générale. Donc on aimait bien son projet Total. On a discuté pendant plusieurs mois, parce que le projet dans sa globalité était tellement intéressant. C'est depuis le début de cette année donc on s'est mis d'accord sur ce partenariat, et donc on l'a soutenu au village départ où nous avons installé donc un bateau pédagogique. Donc un bateau de course, IMOCA, là, pédagogique, on a laissé à disposition pour le grand public pour qu'ils puissent visiter donc les bateaux de course, parce qu'évidemment tous les bateaux qui étaient sur la ligne de départ pour partir, il n'était pas accessible pour le grand public, mais donc parce qu'on voulait donner la possibilité au grand public de voir ce que c'était un bateau et comment c'est pas trop confortable quand même.
Oui, un bateau de comme ça de régate du tour du monde, c'est pas du tout confortable, hein, j'imagine.
C'est pas du tout un salon flottant. Ouais, hein. C'est quand même assez rustique comme environnement. Et puis c'est pour ça qu'on avait mis surtout les endroits, l'emplacement où le skipper où il dort. Quelques questions intéressante là pour savoir comment ça se passe, par exemple notamment sur le sommeil. C'est quand même, faut savoir que la plupart ils sont en moyenne partis pendant 3 mois, ils dorment pas plus que 1 heure. Donc c'est, ils ont un autre rythme de d'être réveillés et de sommeil. En tout cas, on trouve ça assez magnifique et intéressant, et moi personnellement c'était la première fois qu'on assistait à ce village de départ pour le Vendée Globe, et j'étais impressionné par l'intérêt et l'engouement du public qui était là. Donc tous les jours pendant plus que 3 semaines, nous avons accueilli 2000 personnes sur le bateau. Et je pense que, si j'ai bien entendu, tous les jours il y avait en moyenne 30 000 visiteurs.
Ah oui, c'est incroyable.
Et c'est incroyable. Et je ne parle même pas là du départ, qui est quand même assez spectaculaire aussi à voir.
Bien sûr, oui.
Et que j'ai l'impression que toute la France était là, voire même certaines parties de l'Europe. Donc c'était impressionnant et c'était un très bel événement.
Donc sur le bateau du skipper, il y a Enertrag en très gros.
On n'est pas le plus grand logo, et j'en profite pour le citer quand même, c'est nos amis de Nexans.
Oui.
Sur les spécialistes de câbles sous-marines là, qui est le plus grand sponsor, et WeWise, donc solution photovoltaïque aussi, qui une filiale de Butagaz là, qui sont les deux grands partenaires là de Fabrice. Mais on est très fiers aussi, on est juste en dessous en termes de taille de logo, mais donc évidemment au vu du budget qu'ils ont besoin pour faire le tour du monde et pour avoir ces bateaux de compétition, on est très fiers d'avoir eu la chance de participer à cette aventure.
Bateau qui coûte cher. Et donc ce skipper va pouvoir quand même vous faire des comptes rendus d'études par rapport au vent, tout ça, ou c'est pas prévu?
Non, pour nous, surtout notre contribution, c'était de l'aider à la réflexion, comment faire de ne pas devoir s'appuyer sur des énergies thermiques pour déjà la préparation, le tour du monde, puis après. Et donc l'exemple sur lequel qu'on l'a soutenu, c'était le bateau pédagogique qui était au quai. Donc plutôt que de le brancher sur le réseau ou de mettre un groupe électrogène pour l'alimenter, nous avons installé donc des panneaux solaires avec des batteries à côté pour alimenter donc tout ce qui était écran, lumière et tout ce qui avait besoin de courant à côté. Donc le bateau pendant ces 3 semaines était alimenté 100% renouvelable. Et typiquement, c'est une remorque pour nous, c'est une unité mobile qu'on installe sur des endroits qui sont un peu isolés, typiquement des courses, des triathlons, des courses à pied, par exemple le Paris-Roubaix, on fait un QG renouvelable aussi, on met cette remorque au pied d'un parc éolien sur un secteur pavé où tout le monde qui passe peut charger son téléphone ou sa tablette.
D'accord.
Avec de l'énergie renouvelable.
Formidable. Donc c'est un projet de futur. Enfin, c'est une vision du futur d'Enertrag, cette activité.
Absolument. Ça en fait partie. C'est pour nous, évidemment. Faut être clair, c'est une manière très sympa pour communiquer dessus. Nous avons plusieurs collègues qui sont amateurs de la voile. Et donc c'est à travers ce partenariat, on peut communiquer là-dessus, on peut communiquer sur notre entreprise et sur les objectifs que nous avons. Mais donc la mission de l'entreprise, clairement, c'est le développement, construction, exploitation des énergies renouvelables, avec le grand avantage que les énergies renouvelables aujourd'hui sont la forme de production d'énergie le moins chère au monde. Ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est très important. Et donc il faut continuer à les développer. On voit que ça se développe un peu partout dans le monde, donc il faut continuer à garder ses efforts.
Ouais,
exactement.
Merci beaucoup Vincent Mazurel. Un mot sur votre adhésion à la CPME du Val d'Oise?
Alors, bon, on l'a évoqué là tout à l'heure, déjà l'intérêt pour nous, donc vu qu'on est basé dans le Val d'Oise, dans les faits, on était déjà en contact avec pas mal d'adhérents de la CPME. Et ça s'est fait assez naturellement parce que les adhérents avec qui on travaille au jour le jour ensemble déjà, donc notamment des formateurs, des brasseurs, des entreprises de nettoyage, étaient déjà adhérents. Et puis ça s'est fait assez naturellement autour d'un repas. Et puis voilà, c'est clair que pour nous, ça avait tout à fait son intérêt d'adhérer à la CPME. Et puis on est très contents des services qui sont proposés, parce que comme Laurent l'a expliqué là au début, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont proposées.
Oui,
ça permet d'avoir contact et de faire connaissance avec des entreprises qu'on connaît déjà, de revoir les entrepreneurs qu'on connaît déjà, d'échanger des problèmes qu'on a en commun, et aussi pour faire connaissance avec des nouveaux entrepreneurs, petits, moyens, grands.
Complètement.
Ça a tout à fait sa place, et puis c'est très efficace et pertinent comme organisation.
Voilà, et ça donne à IDFM Radio l'occasion de vous accueillir tous les trois aujourd'hui avec Laurent. Oui, Laurent, vous avez une question?
Oui, non, pas une question, et toujours pas. Et, non, mais c'est bien ce que faut dire quand même, que Vincent est le premier Belge made in 95 au sein de la CPME. Donc on s'ouvre à l'international. Non, ça me permet de rebondir sur... j'ai créé il y a 2 ans un club export, parce que c'est important.
Ah oui.
C'est une chose qu'on n'avait pas à la CPME du Val d'Oise. On a créé un club export auquel Vincent a intégré le club export. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner des entreprises vers l'export, donc des primo-accédants, on va dire, à l'export. Et d'ailleurs, FedEx, Alexandra Grégoire, a intégré le comité de pilotage. Voilà, c'est aussi ça qui est le plus qu'on a apporté aux plus grandes entreprises. Donc voilà, et voilà, c'est un club qui démarre et bah, qui se rencontre bien souvent sur Roissy, parce que l'export, c'est souvent associé forcément à Roissy. Donc voilà, c'est un beau club. Ils sont une vingtaine de chefs d'entreprise, un peu club d'affaires et d'échanges, des bonnes pratiques à l'export.
Oui.
Donc voilà. Et j'ai quand même une question pour Vincent. Est-ce qu'il y a des grands projets de photovoltaïque dans le Val d'Oise de prévu?
Est-ce qu'il y a... Des grands projets? Non, pas vraiment. Parce que, au vu de la configuration du Val d'Oise, c'est très dense. Et donc, les plus grands projets que nous avons, donc, que nous étudions et que nos confrères étudions, c'est des projets plutôt de toiture. Les ombrières que nous avons donc pour l'installer. Donc dans les faits, vu la contrainte technique, il y a des projets qui vont jusqu'à 5 à 10 hectares de surface, mais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a des projets qui sont en cours aussi sur l'aéroport de Roissy. Nous étudions des projets d'ombrières et sur des nouveaux bâtiments au Bourget aussi. Mais c'est surtout les plus grands projets qu'on a ici sur le secteur. Ce sont des ombrières qu'on installe sur des anciennes déchetteries. On a un projet quand même assez intéressant sur l'agglomération Cergy-Pontoise, où on étudie la possibilité de mettre des ombrières photovoltaïques sur un cimetière.
D'accord. Ah oui.
Mais des gros projets, proprement dit, les plus gros projets que nous avons en photovoltaïque, c'est plutôt... en dehors du région de Île-de-France, parce que nous cherchons des grandes surfaces, on va dire, entre 20 jusqu'à 100, 200, 300 hectares. Voilà. Mais, et donc, évidemment, je dois même pas répondre pour la partie éolienne, parce que là, sur le secteur, et avec Roissy, c'est pas très compatible avec des éoliennes.
La maire de Paris, t'as pas consulté la maire de Paris? Elle a pas une idée, en haut de la Tour Eiffel?
Non, non, mais justement, ils ont dit
qu'il y a déjà... Pour le coup, ça réduirait vraiment les vols de nuit, hein, je crois, s'il y avait des éoliennes.
Il y a pas de vol au-dessus de Paris, ça va.
Juste pour la petite anecdote, on a quand même discuté avec la DGAC pour leur proposer, donc, leur zone d'approchage. De mettre des éoliennes le long, vraiment en limite de ces zones d'approchage. On a discuté pendant 6 mois, mais bon.
Ils n'ont pas accepté.
Ne sait-on jamais.
Oui, on ne sait pas.
Par sécurité.
J'adore sécurité.
C'est ça.
Merci infiniment, messieurs, pour votre venue à l'économie en direct. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps quand même pour, j'ai l'habitude de refaire un petit tour de table pour poser un mot de conclusion à mes invités. Donc, Julien, du coup, je commence avec vous. Un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Petit mot d'actualité. Écoutez, nous sommes mi-novembre et donc nous allons maintenant rentrer dans la période la plus chargée en termes d'activité,
ce
que nous appelons la peak season.
D'accord.
Le restockage, l'alimentation des magasins et la période de fête approchant. Et donc notre activité va s'accélérer jusqu'à la période des fêtes de Noël. Donc nous sommes vraiment dans le cœur de l'action. Et quand on prend la période de... à partir de la semaine précédente de Black Friday jusqu'à cette période de fin décembre, c'est à peu près 30% de la volumétrie annuelle qui est transportée. Donc pour vous dire à quel point la machine s'accélère.
Tout le monde est très concentré. Très bien. Bah, écoutez,
et merci beaucoup pour cette invitation.
Mais je vous en prie, beaucoup d'énergie donc pour cette période à venir. Merci Julien. Jean-Pierre Duquesne, un mot de conclusion.
Ben moi, je suis ravi d'être venu et d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous en remercie. Moi, mon actualité et puis le mot de conclusion, c'est de rester mobilisé pour sensibiliser autant que faire se peut.
On va suivre ça de près.
Le gouvernement sur l'augmentation du coût de travail, cette possible augmentation du coût de travail qui, dans nos entreprises, serait catastrophique et contre-bénéfique.
Ah oui, hein. Oui, oui.
Donc, il faut qu'on nous restions tous mobilisés pour faire entendre cette voix qui est essentielle.
C'est ça. Hein,
pour la continuité économique de nos entreprises. Voilà. Merci en tout cas.
Jean-Pierre Duquesne, vous revenez quand vous voulez, si vous voulez parler de ces sujets, il n'y a aucun problème.
Enfin,
je le dis à vous tous, hein, de toute façon, mais voilà, n'hésitez pas.
Attention, je vais passer mes journées ici.
Pourquoi pas.
On rappelle que Jean-Pierre a une entreprise familiale. Donc,
ouais. À quel endroit est-elle située?
Alors, en fait, j'ai une entreprise sur Beauchamp, voilà.
Beauchamp, très voilà. Bien. Bon, ben voilà, c'est Made in 95 également. Ouais. Vincent Mazuriel, un mot de conclusion.
Peut-être un mot de conclusion pour dire aussi que l'année dernière, quand on s'approchait de Noël, il y avait pas mal d'inquiétudes là sur des éventuelles coupures d'électricité.
Oui.
J'ai peut-être juste envie de rassurer les auditeurs pour dire qu'il n'y aura pas trop d'inquiétude par rapport à ça, parce qu'on a continué à développer et à raccorder donc des installations renouvelables photovoltaïques et éoliennes. Et au-delà de ça, il y a plus de centrales nucléaires qui ont redémarré.
D'accord.
Et donc, en termes de coupure d'électricité, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et les perspectives pour le coût de l'électricité sur le marché sont plutôt bonnes.
Ah bon, bah écoutez, voilà. C'est une très bonne nouvelle pour IDFM Radio alors. Merci infiniment, merci Vincent. Laurent, le mot de la fin est pour vous.
Ah bah vous avez entendu Jacqueline, pas de coupure d'antenne cette année.
Non, pas de coupure d'antenne.
Hein. Vous savez de quoi je parle. Non, juste remercier mes trois adhérents qui sont venus aujourd'hui, Julien, Jean-Pierre et Vincent, pour le temps qu'ils consacrent pour la CPME, pour les adhérents et pour les échanges qui sont toujours très très riches. Vous les avez entendus ce matin. Voilà, ils sont déterminés, engagés, ils représentent tous les trois belles entreprises, trois belles réussites. Et je tenais juste à les remercier. Merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir.
Merci encore d'avoir répondu à l'invitation d'IDFM Radio. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, découvrir vos activités respectives. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité, comme à chaque émission. Retrouvez son podcast sur notre site idfm98.fr. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à vendredi prochain, 9h30, pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Nous parlerons encore de navigateurs. Alors, à mardi, bonne journée et bonne semaine.